Ça fait 10 ans qu'on est mariés, puis depuis nos 10 ans, il semblerait que le Seigneur nous ait comme relâchés pour bénir des couples, pour pouvoir apporter un message aux couples. Donc nous, on aime vraiment ça, on aime beaucoup ce sujet, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et ça, on a 30 ans, on a l'air jeune, mais ceci dit, le Seigneur a déjà fait des choses pour nous, le Seigneur a été bon avec nous. On n'était pas des gens prédestinés à réussir dans notre couple particulièrement. C'est juste grâce à Dieu qu'on est ensemble aujourd'hui, qu'on sert Dieu ensemble aujourd'hui. Donc ce qu'on a reçu, on veut vraiment vous le donner parce que c'était une grâce dans notre vie, avec que ce soit la même grâce dans votre vie. Donc je vais juste laisser la place à Jérémy.
Bonjour à tous. J'ai simplement prié par rapport à la parole de Dieu. Seigneur, je te remercie parce que ta parole, elle est extraordinaire. Et c'est elle qui a la puissance de transformer nos vies. Je te glorifie pour ta présence ici ce matin. Merci parce que là où tu trouves des cœurs ouverts, tu parles et tu transformes les vies. Merci parce que rien n'est impossible, Seigneur, à celui qui croit. Et je te glorifie pour ton peuple ici. Merci parce que tu as des destinées dans cette ville. Tu as des destinées dans cette église. Tu as des choses à accomplir au travers des vies, au travers des couples, au travers des personnes qui sont là. Et Seigneur, je veux te glorifier, te remercier. Parce que tu es un Dieu sage et extraordinaire. Ta parole déclare que tu connais toutes choses à l'avance. Et nous voulons entrer dans ce « tout est accompli ». Nous voulons entrer dans les choses que tu as faites pour nous et les choses que tu as écrites pour notre vie personnelle en tant que couple. Seigneur, merci pour ta présence. Je glorifie ton nom. Nous t'adorons et nous te glorifions. Nous voulons vivre pour toi et te servir. Nous voulons être, Seigneur, une offrande devant toi, que toute notre vie puisse servir à ta gloire. Père, merci. Merci parce que tu m'as oint et tu nous as oint tous les deux pour apporter ta parole, une parole qui brise le joug au travers de l'onction du Saint-Esprit. Merci pour des cœurs ouverts ce matin. On a deux messages, on va apporter tous les deux la parole de Dieu. Et ça va être des messages qui vont se compléter. La Bible nous dit dans Genèse au chapitre 12 et au verset 1, la Bible dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. » Avec Dieu, tout est possible. Quelle que soit la situation que vous traversez en ce moment dans votre couple, quel que soit ce que vous avez pu vivre, si vous vous attachez à Jésus-Christ, il n'y aura absolument rien d'impossible. Et on voit dans beaucoup d'églises et beaucoup de chrétiens toutes sortes de mentalités et toutes sortes de visions par rapport à la vie. Nous avons été semés dans cette vie et nous avons été établis dans ce monde, non pas pour vivre pour nous-mêmes, nous avons été établis. Et nous avons été glorieusement sauvés par Jésus-Christ pour pouvoir accomplir une œuvre. Et c'est l'œuvre de Christ. Et toutes les personnes qui ont une autre vision que celle d'accomplir l'œuvre de Christ, ce seront des personnes qui vivront des défaites. Ce seront des personnes qui vivront un échec. Et constamment dans leur vie, ils auront ce sentiment d'échouer quelque part. Jamais ils ne se sentiront réellement épanouis. Jamais ils ne se sentiront réussir leur vie. Pourquoi ? Parce que nous avons été créés dans ce monde pour servir à la gloire de Dieu. Et quand nous parlons de couple, nous parlons de deux individus que Dieu a placés l'un avec l'autre, ou que les circonstances ont placés l'un avec l'autre. Et la Bible nous déclare ici, dans Genèse au chapitre 12, que Dieu a dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » La Bible nous dit dans Genèse au chapitre 1 et au verset 27, « Dieu créa l'homme à son image. » Il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Il faut comprendre une chose, c'est que à partir du moment où vous êtes né dans ce monde, vous avez été béni de Dieu. Vous marchez dans la bénédiction de Dieu. Et quel que soit ce que les circonstances pourraient bien vouloir vous dire, quel que soit ce que les choses autour de vous ou les gens pourraient vouloir vous dire, quel que soit ce que le diable vous dirait, la Bible déclare que vous avez été béni. Dans l'Ancien Testament, déjà dans les anciennes alliances, Dieu avait béni l'homme. Et dans la Nouvelle Alliance, Dieu a béni l'homme de toute bénédiction spirituelle. Et la Bible déclare que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. J'aimerais vous dire qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu pour vous. Votre couple peut être dans la pire des difficultés, dans la pire des choses, ou même on vous a peut-être abandonné. J'aimerais te dire, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance en Dieu, parce que Dieu est le Dieu de l'espérance. La Bible déclare que nous avons été bénis. Beaucoup de gens méprisent la parole de Dieu.
Ils sont dans l'église et ils lisent la Bible et ils prient et ils demandent toutes sortes de choses à Dieu. Et quand Dieu leur parle, ils méprisent la parole. La Bible dit que Dieu a bien des façons de nous parler et souvent nous passons à côté. Dieu parle et l'homme n'y prend pas garde. La Bible déclare que nous avons été bénis en Jésus-Christ. Si ça avait été la seule parole que Dieu nous avait donnée, elle était suffisante. Pas besoin de grande théologie pour savoir que nous avons été bénis. Mais ce que Dieu désire trouver en vous, ce que Dieu désire trouver en nous, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire, sans la foi, il sera impossible de répondre aux exigences de Dieu. Sans la foi, il sera impossible de réussir notre destinée. Nous devons croire. Croire qu'il y a quelque chose de meilleur qui vient. Pourquoi ? Parce que nous avons été bénis. Beaucoup de gens réclament la bénédiction et beaucoup de gens regardent Dieu comme s'il était le coupable, comme s'il était l'auteur de tous les méfaits qui arrivent dans leur vie, de toutes les choses mauvaises qui arrivent dans leur vie. J'aimerais te dire, Dieu n'est jamais le coupable. Dieu t'a béni et nous avons été bénis. Et la Bible dit ici, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. La Bible nous dit, vous avez été bénis. Et en tant que couple, une des fondations qu'il doit avoir dans notre couple, c'est de déjà savoir que notre couple est béni. Nous avons été bénis. Ah, je sais que si je serais en Afrique, les gens commenceraient à crier « Alléluia ! Gloire à Dieu !» Les Africains, vous devenez trop canadiens, je suis vraiment désolé. Nous avons été bénis de toute bénédiction. Et si vous voulez réussir, je vois des gens à l'église, parfois, j'ai l'impression, les gens ne... Je ne sais pas pourquoi ils sont là. Certaines personnes, je ne sais pas pourquoi elles sont là. Les gens n'ont pas compris ce que c'était l'Église. Les gens n'ont pas compris ce que c'était vivre pour Dieu. Et en fait, on réalise qu'il y a toute une foule qui est en train de suivre Jésus. La même foule qui était en train de le suivre alors qu'il était sur la terre en manifestation. Et ils sont là pour avoir à manger. Et pour regarder les choses et pour être bénis. Mais Dieu nous a placés dans cette vie présente pour être une source de bénédiction. Nous sommes à l'Église parce que nous aimons Jésus-Christ. Nous vivons cette vie présente parce que nous adorons Jésus. Nous sommes amoureux de Lui. Nous voulons lui plaire, nous voulons lui être agréables. Nous voulons vivre seulement pour Lui. Ça doit être ce qui t'anime. Et en tant que couple, ça doit être ce qui anime ta vie, vivre seulement pour Lui. Que mon couple puisse servir à la gloire de Dieu. Si nous ne savons pas que nous sommes bénis, nous ne pourrons jamais tenir ferme contre celui qui dévore. Mais alors que celui qui dévore arrive au niveau de notre couple, puisque nous savons que nous sommes bénis, il ne réussira pas. La Bible dit qu'il est capable de nous préserver de toute chute. Il en sera fait selon notre foi. Dieu est capable. Si notre couple est caché en nous-mêmes, dans nos propres ambitions, dans nos propres désirs et dans nos propres projets, jamais il ne réussira. Jamais notre couple ne pourra prospérer. Lorsque ça ne va pas en tout temps, nous devons nous regarder et nous dire, nous sommes bénis. Nous devons réaliser que nous avons été bénis de Dieu. J'aimerais vraiment que vous puissiez prier à l'intérieur de vous, dire, Seigneur, vraiment, révèle-moi ta parole. Montre-moi combien j'ai été béni. Montre-moi ce que ça veut dire d'être béni. Si l'Église voyait, la Bible dit qu'Abraham a pris Lot avec lui. Lot, son nom veut dire le voile qui couvre. Et beaucoup de chrétiens sont avec un voile qui couvre leurs yeux. Ils sont là avec leur femme, ils sont là avec leur mari, et il y a comme un voile qui couvre leurs yeux. Nous allons parler de ce voile aujourd'hui. Nous pouvons croire le meilleur pour notre couple, car nous avons été bénis de Dieu. Et certains diront, oui, mais tu sais, moi, je suis marié avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7,14, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère, autrement vos enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont saints. Donc ton couple est béni. Quelle que soit la situation que tu rencontres, sache que ton couple est béni. En tout temps et en toutes circonstances, la première fondation que nous devons comprendre, c'est que nous sommes bénis. Et ne jamais déclarer des choses contraires à cette bénédiction. Ne jamais prononcer des choses qui vont à l'encontre de cette bénédiction en Jésus-Christ. Et nous avons vraiment besoin de recevoir cette révélation. Dans Genèse au chapitre 12, nous allons y retourner. Genèse au chapitre 12. Dieu va donc lui dire de quitter sa patrie vers le pays qu'il lui montrera. Et lorsque Dieu va lui demander de tout quitter, bien sûr, il va prendre sa femme, Sarai, avec lui. Et il prend également Lot. Et la famine va venir sur le pays, et ils vont descendre en Égypte. L'Égypte, c'est l'image du monde. Dans Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 1, il nous est parlé de l'esprit du monde. Éphésiens 2, 1, « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » La Bible nous parle qu'il y a des esprits mauvais qui sont dans les airs, entre guillemets, et qui se manifestent par toutes sortes de mentalités. L'Égypte, c'est un symbole du monde. Et nous sommes, la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais beaucoup de chrétiens sont dans le monde et ils sont comme le monde. Et ils pensent comme le monde. Et il faut réaliser qu'en tant que croyants, nous sommes dans un combat spirituel. Nous ne combattons pas toutes sortes de démons avec toutes sortes d'épées. Non, nous combattons souvent des forteresses, des mentalités qui ont été mises en nous au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du temps qui a passé et de ce que nous avons vu chez les autres, de ce que nous avons vu chez nos parents, des choses que nous avons vues à la télévision, au cinéma ou ailleurs. Et nous sommes formés comme cela, si nous ne faisons pas attention. Et cela forme en nous une image de l'Égypte. C'est l'image du monde. L'esprit du monde a amené toutes sortes de pensées par rapport au couple. Et l'esprit du monde, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut détruire le couple. Il veut détruire ce que Dieu a créé. Et c'est toujours ce que le diable fait. Il détruit ce que Dieu veut accomplir. Il essaie de détruire par tous les moyens ce que Dieu veut accomplir. Et nous voyons ici, en Égypte et dans le monde, que le diable amène toutes sortes de pensées et de mentalités par rapport au couple. La Bible nous dit de regarder à Dieu. La Bible, Dieu nous demande de regarder à sa parole. Et nous voyons ici que dans Genèse au chapitre 12, au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Au verset 12, donc il y a eu la famine, lorsqu'il fut près d'arriver en Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Voyons donc, je sais que tu es une belle femme. Aussi quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Alors ils me tueront et te laisseront la vie. » Tu vas dire que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et grâce à toi, j'aurai la vie sauve. Ça, c'est la mentalité du monde. La mentalité du monde, c'est, tu es marié, mais sache que, même si tu es marié, tu es un individu, tu as tes droits, tu as tes privilèges, et en fait, finalement, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est la mentalité du monde. Et lorsqu'il est descendu en Égypte, c'est comme si la mentalité du monde s'était accrochée à lui. Je ne sais pas si c'est à cause de Lot, ce voile qui recouvre, mais en tout cas, Abraham a commencé à se mettre avant de mettre les intérêts de son épouse. Il était prêt à ce que sa femme se fasse abuser par toutes sortes de personnes. Il était prêt à ce que le roi puisse faire ce qu'il voulait avec elle. Simplement, il est dit ici, afin que je sois bien traité à cause de toi. Et ça, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est, je suis en couple, mais je serai toujours prioritaire dans mon couple. Ça veut dire que ce sera toujours mes ambitions personnelles. Ce sera toujours mes désirs qui vont prévaloir sur celui de ma femme ou sur celui de mon mari. Ici, par exemple, au Canada, j'étais surpris en arrivant ici, que les femmes gardaient leur nom de famille. Pourquoi? Vous demandez pourquoi? Peut-être, vous le savez peut-être. C'est certainement à cause du grand nombre de divorces. Et à cause des papiers, les gens font ça pour que dès que tu te maries, sache que tu appartiens encore à ton vieil homme. Et ça, ça construit dans la mentalité des gens la division. Et il y a toutes sortes de choses comme ça, les gens ne font pas attention. Mais ça crée en eux une mentalité de division. Par exemple, ma femme s'appelle Annabelle Sourdrille. Mais ici, arrivé ici, ou c'est le cas dans plusieurs pays, on lui dirait, voilà, tu t'appelles Annabelle Cola. Bonjour, je suis Annabelle Cola et moi je suis Jérémy Sourdrille. C'est la division. Lorsque nous nous sommes mariés, elle a pris mon nom. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. C'est ce que Dieu dit. Alors que je suis marié, je ne suis plus deux chairs. Je suis une seule chair. Quand vous allez faire un prêt pour une maison, pour une voiture, on vous demande, mais est-ce que vous allez le faire au nom à votre nom seulement ou au nom de votre épouse et de vous. Et toutes sortes de choses comme ça, pour créer en nous déjà une mentalité de division. Vous allez vous marier et on vous dit, est-ce que vous allez faire un contrat de mariage? Parce qu'en cas de séparation, il faudra séparer les meubles et séparer vos biens. Imaginez la mentalité. Ça, c'est la mentalité du monde. Et les chrétiens, ils sont pas dérangés avec ça. Alors, ça crée en eux une mentalité de l'Égypte. Ça crée en eux une mentalité qu'ils sont en couple, mais finalement, ils sont toujours désunis. Ils sont en couple, mais l'un a ses propres ambitions et l'autre a ses propres ambitions. Et ça ne peut pas fonctionner. La Bible dit, est-ce que deux hommes vont-ils marcher ensemble sans en avoir convenu? Il est impossible de marcher d'une manière désunie tout en étant dans le plan parfait de Dieu. Dieu va dire à Abraham et va lui donner une promesse. Dans Genèse au chapitre 13 et au verset 16, Genèse au chapitre 13 et au verset 16, « Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra pas plus la compter que l'on ne peut compter la poussière de la terre. » Dieu va promettre à Abraham une descendance nombreuse. Descendance veut dire un homme et une femme qui se rencontrent et qui ont des enfants. Il lui parle donc de descendance. Et le temps va passer. Et apparemment, la promesse que Dieu lui avait donnée, c'est comme si elle était lointaine ou peut-être Dieu s'était trompé, le temps a passé. Parfois, lorsque des gens s'unissent ensemble dans le Seigneur, ils sont là avec tous leurs rêves. Et ils disent, oh Seigneur, vraiment, on te met en premier, voilà pourquoi on va se marier à l'église, voilà, on va te servir. Et le temps passe. Dieu leur a donné des visions, Dieu leur a donné des choses à faire dans ce monde, et le temps passe. Et quelqu'un a dit que le temps va montrer ce qui est dans ton cœur. Le temps qui va passer va montrer réellement ce qui était dans ton cœur. Va montrer réellement pourquoi tu t'es marié. Est-ce que tu t'es marié juste pour satisfaire tes besoins ou est-ce que tu t'es marié pour servir à la gloire de Dieu et être unis ensemble? Le couple, c'est une puissance que rien ne peut renverser lorsqu'il est uni en Christ. Dans Genèse au chapitre 16, d'abord chapitre 15, Genèse chapitre 15, et au verset 3, donc le temps va passer et Dieu va dire, et Abraham va dire à Dieu, « Tu ne m'as pas donné de descendance, Genèse 15, 3, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Abraham va faire ce que beaucoup de gens font quand le temps passe et que les choses ne se réalisent pas. Il va dire à Dieu finalement, « C'est toi le coupable. C'est toi qui m'empêches d'accomplir ma destinée. » Dans Genèse au chapitre 7, au verset 1, la Bible dit, « Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. » Certainement que Abraham était là encore et disait, mais finalement, Seigneur, moi je fais tout, mais ça vient de ma femme. Il a essayé d'accuser Dieu, il a essayé d'accuser sa femme. Il a essayé de dire, mais finalement, Seigneur, moi je fais tout, mais voilà, tu ne fais pas les choses et apparemment ma femme ne fait pas les choses. C'est ce que beaucoup de gens vivent dans leur couple. Ils pensent que c'est la destruction, c'est le chaos dans leur vie. Ils pensent qu'ils n'entrent pas dans les promesses de Dieu à cause de leur femme ou à cause de leur mari. Dieu leur promet la réussite et ils pensent que l'autre est le responsable. Ici donc Abraham va dire, Seigneur, tu ne m'as pas donné de descendance. Et après il va dire finalement, Sarai ne m'a pas donné d'enfant. La Bible dit, elle avait une servante égyptienne dont le nom était Agar. Sarai dit à Abraham, « Puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par elle. » Abraham écouta la voix de Sarai. Sarai avait encore, elle aussi, une mentalité déformée, une fausse perception de Dieu. C'est très important dans le mariage d'avoir une bonne perception de Dieu. Bonne perception de la volonté de Dieu. Bonne perception de la place de chacun dans le couple. Sarai avait une fausse perception de Dieu et une fausse perception de comment Dieu allait réaliser sa destinée dans sa vie. Certainement à cause de sa culture. C'était culturel ce qui s'est passé ici d'aller vers la servante quand la femme ne pouvait pas enfanter. Et donc Sarai a adopté la culture, elle a adopté l'esprit de l'Égypte. Elle a adopté l'esprit de la culture. Nous devons vivre notre vie dans la culture du royaume de Dieu. Nous ne pourrons pas réussir avec des conseils qui nous viennent de l'homme. La Bible dit que celui qui se confie en l'homme, il ne réussira pas. La Bible nous dit de se confier en Dieu. Nous devons nous confier dans la parole de Dieu. Nous devons bâtir notre vie sur la parole de Christ. Elle avait aussi une fausse perception de qui elle était en tant qu'épouse, de son statut d'épouse. Et donc de celle qui devait porter et manifester la vision que Dieu avait donnée à son mari. Finalement, Sarah s'est dit, ok, mon mari a une destinée, mon mari a un plan divin, il a quelque chose à faire pour Dieu. Dieu lui a parlé de descendance. Mais je ne suis pas forcément inclus dans cette destinée. Alors, Dieu va faire en sorte que Abraham puisse passer au travers de ma servante pour donner à mon mari une descendance. Sarai est comme plusieurs femmes chrétiennes qui pensent qu'elles n'ont pas besoin d'être pleinement présentes pour que Dieu accomplisse au travers de leur mari ce qu'il a dit. Beaucoup de femmes, et c'est le cas aussi pour beaucoup d'hommes, ne réalisent pas le statut qu'ils ont et la place qu'ils ont au sein de leur couple. Parce que lorsque Dieu parle à un homme qui est marié, Dieu peut parler à l'homme, mais Dieu sait très bien que c'est l'homme et la femme qui sont imbriqués dans cette destinée. Il n'y a pas d'homme à qui Dieu a parlé et qui va accomplir tout seul sa destinée. Lorsque Dieu parle à un homme, il sait très bien que la femme est aussi appelée. Quand Dieu parle à quelqu'un dans un couple, Dieu appelle le couple. J'ai vu en France beaucoup de gens, j'étais dans une certaine dénomination d'église, et dans la majorité de ces églises, j'ai vu les pasteurs qui étaient là en train de servir Dieu, et j'ai vu les femmes qui étaient complètement mises à côté. Les femmes des pasteurs étaient complètement laissées à côté, et la plupart étaient dépressives, parce qu'on ne leur avait pas donné la place, le rôle qu'elles devaient jouer. Genèse au chapitre 16, donc au verset 2, « Puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va vers ma servante. » Sarai avait donc une fausse perception de son statut d'épouse. Mais en tant que femme, vous devez comprendre qu'il n'y a personne d'autre que vous qui pourra aider plus que vous, votre mari, à entrer dans les plans de Dieu. En tant que mari, il n'y a personne d'autre que plus que vous qui pourrez aider votre femme à entrer dans les plans de Dieu pour sa vie. Il n'y a personne. Il n'y a pas deux Sarai. Il n'y a pas deux Abraham. Il y a une seule Sarai. Agar ne vaut pas Sarai. Il y a une seule Sarai, et c'est ce que Dieu va leur montrer. Dieu aurait pu dire finalement, tu sais, Abraham, c'est vrai, je t'ai appelé à avoir une descendance. C'est ta descendance. Peu importe avec qui tu l'as, l'important c'est que tu aies ta descendance. C'est ça qui est important, c'est l'appel, c'est la descendance. Mais Dieu n'a pas dit ça. Car Sarai était la seule qui puisse accomplir la vision que Dieu avait donnée à son mari. Elle était la seule qui pouvait accomplir la vision que Dieu avait donnée à son mari. Dieu a voulu changer, et Dieu va essayer de changer la vision que Abraham avait de sa femme. Et il va essayer aussi de changer la perception que Sarai avait d'elle-même. Dans Genèse au chapitre 17, verset 15, « Entre le temps où Dieu avait parlé, il s'était passé un grand nombre d'années. » Quand Dieu avait dit, voilà, il y aura une descendance, il s'est passé un grand nombre d'années, et Dieu va parler à Abraham. Au début du chapitre 17, Dieu va lui dire, maintenant tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. De père, tu vas passer de père d'une multitude. Et il dit ici, au verset 15, Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui est de ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai, et elle donnera naissance à des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham tomba face contre terre, il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, accoucherait-elle » Puis Abraham dit à Dieu, « Ô qu'Ismaël vive devant ta face !» Au verset 15, Dieu dit donc, « Pour ce qui est de ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. » Sarai voulait dire princesse. Mais Sarah voulait dire princesse souveraine, ou encore princesse élevée, ou princesse qui domine sur beaucoup. Dieu va non seulement changer le nom d'Abraham, Mais Dieu va ordonner à Abraham de changer le nom de son épouse. Imaginez, il avait 99 ans. Dieu va lui demander de changer le nom de son épouse. Il va lui dire, mais finalement, Abraham, change ta vision de ta femme. Ne la regarde plus comme un second choix, comme si Agar était le premier choix, celle qui allait te donner la promesse, celle qui allait faire en sorte que la promesse se réalise dans ta fille. Ne la regarde pas juste comme un compagnon de route, comme quelqu'un qui est là juste pour satisfaire tes besoins, qui est là pour s'occuper de toi et de ta maison. Mais regarde-la comme une partenaire, ta partenaire de vision. Tu es uni à elle, et c'est avec elle que tu pourras accomplir la vision que tu as reçue il y a 24 ans. 24 ans auparavant, Dieu avait parlé à Abraham. Et pendant ces 24 ans, Abraham n'a jamais compris la place qu'avait Sarah dans sa destinée. Pendant ces 24 ans, imaginez 24 ans de vie ensemble, à partir du moment où Dieu avait parlé à Abraham, Abraham n'avait jamais compris la place que Sarah devait occuper dans sa destinée. Cela a mis des années et des années pour qu'Abraham puisse comprendre que Sarah n'était pas simplement une femme de deuxième ordre, une femme de deuxième importance. Il n'avait jamais compris jusqu'ici le rôle de sa femme. Si vous connaissez son histoire, à un moment, quand il va arriver en Égypte, il va donc dire, tu diras que tu es ma sœur. Il essayait d'amener Sarah dans, par rapport aux circonstances de sa vie. Si les circonstances de sa vie lui disaient quelque chose, il changeait le statut de sa femme. Il dit, voilà, tu seras ma sœur, voilà, finalement, Agar sera ma femme, etc. Il va accepter ce que sa femme va lui proposer. En fait, les choses n'allaient pas. Dans leur couple, les choses n'étaient pas mises à la bonne place. Et il n'avait jamais compris, justement, que sa femme était une reine. Au verset 16, il dit, je la bénirai, je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à, elle pense à elle-même au lieu de penser aux intérêts, elle pense à elle-même au lieu de penser aux intérêts du royaume de Dieu. Et de la même façon que, au bout d'un moment, juste après, Abraham et Sarah vont chasser Agar dans le désert, de la même façon, en tant que couple marié, nous devons chasser ces mauvaises mentalités de notre vie. Nous devons chasser l'esprit d'Égypte, ce qui nous désunit, pour marcher unis ensemble. Lorsque plus tard, et je vais laisser la place à Annabelle, lorsque plus tard, Abraham va parler par rapport à la femme, future femme d'Isaac, Abraham va dire au serviteur, tu vas me chercher pour mon fils une femme, mais tu n'amèneras pas mon fils dans ce pays. Ce sera cette femme qui viendra elle-même dans mon pays, dans le pays de mon fils. Parce qu'Abraham avait compris que cette femme devait être de tout cœur dans le rôle de son mari. Il a dit, ce n'est pas lui qui ira vers elle, mais c'est elle qui ira vers lui. Parce que cette femme devra être complètement consciente du rôle qu'elle a à jouer dans la destinée de mon fils. Et encore un peu plus tard, par rapport à Rebecca, lorsqu'Isaac se rendit compte que sa femme était stérile, il n'a pas fait comme son père, en disant, c'est toi le coupable, ou en disant, sa femme, c'est toi la coupable. Mais il a prié, et Dieu est intervenu d'une façon miraculeuse. Parce qu'il avait compris qu'il avait une femme. Et d'ailleurs, c'est un des seuls serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament, en tout cas des patriarches, qui a eu une seule femme. Isaac a eu une seule femme. Et au travers de Rebecca, des jumeaux sont nés. Tu peux venir, madame. Au bout de plusieurs années, Abraham a dû comprendre donc le rôle et le statut de sa femme. Et Isaac, son fils, a compris certaines choses. Et alors qu'il se retrouvait dans la même situation que son père l'était, il ne s'est pas mis à accuser Dieu, il ne s'est pas mis à accuser sa femme, mais il a dit finalement, Rebecca, tu es ma femme, et nous allons prier ensemble et voir la gloire de Dieu. Et il a transformé sa mentalité, et il s'est mis en accord avec la mentalité du royaume de Dieu qui dit que tout est possible à celui qui croit, et qui dit aussi que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le désunisse pas. Laissez la place à Annabelle.
Et pour continuer sur la lancée de Jérémie, une fois que vous avez trouvé votre place, vous savez que de deux, vous êtes un dans votre destinée, c'est important que vous puissiez pleinement entrer dans votre destinée de couple ensemble. Et Et comme Jérémie l'a dit, il y a toute une mentalité du monde qui s'est infiltrée. Et malgré nous, même dans l'église, par rapport à la famille, par rapport au couple, c'est parce que aujourd'hui le monde est saturé à cause des médias, à cause des magazines, etc., etc. Et il y a tellement de choses à dire sur le couple. Et le couple va être quelque chose qui va être soit une grande source de bénédiction dans votre vie, une grande joie. Mais quand un couple ne va pas bien, c'est vraiment une grande source de tristesse et de chagrin et de désespoir. Et quand les gens vivent ce genre de crise, des grands désespoirs, ils sont prêts à se tourner dans tous les sens. Et y compris à l'église, un chrétien et une chrétienne qui vont vivre des difficultés, et si le temps passe et qu'ils n'ont pas trouvé leur question, ils vont commencer à écouter des conseils qui viennent d'ici et d'ailleurs, mais qui ne sont absolument pas divins, qui ne sont absolument pas bibliques. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, Jérémie et moi, on n'avait rien pour réussir dans le naturel. C'est pas parce qu'on est, on a un problème spécifique, mais c'est juste parce qu'un couple, c'est quelque chose de tellement précieux, c'est quelque chose de tellement fort que c'est certain que c'est... Le diable essaye d'attaquer les couples. Et ce que tu n'as pas réglé avant dans ta vie, quand tu étais seul, quand tu étais célibataire ou dans ton ancienne vie, c'est des choses qui peuvent ressortir dans ton couple et qui peuvent détruire ton couple. Et moi, je viens d'une famille, j'ai été adoptée quand j'avais 4 mois en France et mes parents adoptifs ont divorcé quand j'avais 10 ans. Et c'était en plein boom du divorce. Là, c'était quand le film est sorti, je sais pas s'il est sorti ici, génial, mes parents divorcent parce qu'ils ont fait un film pour que les enfants puissent bien vivre. Et tout le monde divorçait, tous les parents de tout le monde commençaient à divorcer, ça commençait à devenir normal. Tous les couples qui s'étaient retenus jusqu'ici de divorcer, d'un seul coup, les mœurs se libéraient et hop, tout le monde divorçait. C'était la vague. Et du coup, moi, ma mère, tous ses amis, mais vraiment tous, étaient tous des gens divorcés, des gens qui avaient expérimenté 1, 2, 3 divorces et des ruptures à gogo, etc. C'était ma vision à moi du couple. Avant d'être sauvée, c'était comme ça que je voyais les choses. C'était que un couple, ça peut se marier, mais ça va forcément divorcer à un moment donné. C'est comme quelque chose qui a une date de péremption ou quelque chose que tu sais qu'à un moment donné, tu vas pas le garder toute ta vie, c'est pas possible. Tu t'achètes une voiture, t'es content sur le coup, mais tu sais que bon, à un moment donné, tu vas la vendre, tu vas t'en séparer ou elle va casser, mais tu penses pas faire toute ta vie avec ta voiture. Tu te dis pas, je m'achète ma première voiture à 18 ans, à 120 ans, quand on va m'enterrer, je prendrai ma voiture avec moi, parce que tu sais que ta voiture ne durera pas ce temps-là. Mais un conjoint, une conjointe, un mari, une femme, tu la prends, pas en te disant, écoute, dans 10 ans, dans 20 ans, on sera différent, ça se peut que nos chemins se séparent. Non, parce que Dieu a une destinée commune pour vous. Et quand je vous parlais de la mentalité du monde qui s'est infiltré, c'est que, même, on parle beaucoup de principes et de choses très concrètes, et c'est important dans le couple. Il y a des choses qui sont importantes parce que c'est sûr, si toi tu es un homme, tu rentres tous les soirs du travail, tu jettes tes chaussures sur le tapis blanc et tu dis « Oh, c'est dégueu ce que t'as fait à manger », et puis tu vas te chercher un McDo, tu dis pas bonjour à tes enfants, t'es vraiment désagréable comme personne, c'est certain que ça va pas aider au fonctionnement de ton mariage, c'est certain que ta femme ne va pas être bénie, ne va pas se sentir honorée, donc c'est bon que tu saches certaines bases que... Tu aimes ta femme en pratique. Et si toi, tu es une femme et que tu passes ton temps à rabaisser ton mari, à dire devant tout le monde, devant tes amis, de toute manière, toi, t'es nulle, regarde, t'as construit ça, c'est pourri, ça tient pas debout, ton mari ne sera pas honoré, ton mari non plus sera pas épanoui. Donc, c'est bon de savoir ces choses-là et c'est bon de les mettre en pratique, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et malheureusement, et c'est un message d'espoir ceci dit, mais malheureusement, les couples dans l'église aujourd'hui ont oublié souvent une chose principale. Ça ne va pas, donc ils ont pris des moyens naturels pour essayer de résoudre leurs problèmes. Mais un des moyens, et le moyen par excellence, c'est certain, c'est de se tourner vers Dieu et d'accomplir ce que Dieu a prévu pour vous. D'accomplir cette destinée divine qui est de servir Dieu, qui est de se détourner de votre couple, de se détourner de ce confort, de cette sécurité. Je veux que mon couple fonctionne, je veux une sécurité pour mon couple, mais qu'en couple, vous décidiez, notre vie, ce n'est pas notre couple. Notre vie, ce n'est pas la famille, les enfants, la maison, le travail. Notre vie, elle est spirituelle, elle est surnaturelle. Nous allons entrer dans cette destinée surnaturelle par des moyens surnaturels. Et les moyens surnaturels, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu, c'est de méditer la parole, c'est de se laisser renouveler par la parole, laisser renouveler notre intelligence. Et là, ton mari qui était extrêmement désagréable, naturellement, surnaturellement, il va changer parce que l'Esprit de Dieu agit en lui. Il n'aura pas eu besoin de lire un manuel et d'être constamment intentionnel. Ok, il faut que je dise 3 fois aujourd'hui dans la journée à ma femme que je l'aime. Il se met des rappels sur son téléphone. À 11h, il t'appelle, à 14h et à 17h. Mais entre-temps, il se passe rien. Il n'y a eu aucun changement de l'intérieur. Alors que l'homme ou la femme qui est transformée de l'intérieur, naturellement, il va avoir cette pensée de penser à sa femme ou à son mari et de lui dire « Je t'aime, tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel », de faire des compliments. C'est pas la liste de compliments qu'il a arraché dans la page d'un magazine au dépanneur, les 10 bonnes choses à dire à mon mari ou à ma femme pour 10 ans de bonheur. Non, ça va être quelque chose de naturel, mais surnaturel. Et dans la Bible, il y a 2 couples, on va aller voir rapidement, c'est Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, vous savez, c'est des gens qui, c'est dans Actes, vous pouvez aller dans Actes 5, sont des personnes qui ont décidé, qui se sont accordées. C'est un couple qui s'est accordé. L'homme et la femme se sont mis d'accord, mais ils se sont mis d'accord pour une mauvaise chose. La Bible dit, Actes 5, au verset 9, Ananias est mort, il a menti, Saphira arrive, aimant, elle poursuit le mensonge. Et là, Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Et il y a une puissance dans ce quoi pour la chose pour laquelle tu t'accordes avec ta femme et ton mari. Pourquoi est-ce que vous vous êtes accordé dans votre couple? Est-ce que vous vous êtes accordé pour cette destinée surnaturelle? Est-ce que vous vous êtes accordé pour servir Dieu, pour que Dieu soit le premier dans votre foyer? Même si ça vous dérange quelquefois dans votre sécurité, dans vos zones de confort, est-ce que tu es prêt à tout risquer pour servir Dieu? Est-ce que tu es prêt à faire ce pas de foi en couple, en famille, parce que c'est ensemble, comme Jérémie l'a dit, quand Dieu parle à un, Dieu parle aux deux. Et moi, quand j'ai rencontré Jérémie, il recevait des prophéties, on allait quelque part, il recevait des prophéties, c'est formidable, et puis oh, tu as touché les nations, et puis blablabla, et toi t'es là à côté. Et moi, moi j'avais jamais rien, jusqu'au jour où j'ai eu cette parole, et je me suis dit, aïe, je ressens enfin une prophétie, et on m'a dit, tu es gentil. Alors là, mes espoirs ont été anéantis ce jour-là, parce que Jérémie, c'était, oh, je te vois, tu fais le tour du monde, tu as un pack des nations, des miracles, des prodiges, tu es gentil. Ah, eh ben c'est formidable. Et je me dis, bon, ben là c'est certain qu'on n'a pas la même destinée, ça, on va pas fonctionner ensemble. Et honnêtement, dans mon cœur, je me suis rangée à un moment donné, je me suis dit, mon mari a une grande destinée, c'est formidable, je me réjouis pour lui tant que je peux, et puis moi je vais être gentille, mais à la maison et dans mon coin, et puis Dieu m'appelle pas à moi, mais Dieu m'appelle pas à la même chose que Jérémie, mais Dieu m'appelait avec lui. Et pour, quand Jérémie a dit tout à l'heure, il n'y a personne d'autre qui va pouvoir vous encourager plus que votre femme ou votre mari. Et personnellement, Jérémie a toujours été celui qui m'a toujours et toujours et toujours encouragée. Aujourd'hui, je ne serais pas là, c'est certain, c'est le Seigneur, mais je ne serais pas là si lui ne m'avait pas encouragée. S'il était resté dans cette, comme Abraham pendant plusieurs années, il aurait dit, écoute, t'es gentil, mais t'es gentil, c'est tout. Et non, il m'a dit, non, on est appelés ensemble, on va servir Dieu ensemble, on va faire les choses ensemble. Et parce que c'est quand tu te ranges dans ton cœur, c'est toi qui prends cette décision-là. C'est pas Dieu qui te met au placard, c'est toi qui prends cette décision-là. Quand j'ai reçu cette parole, tu es gentil, Dieu m'a pas dit, range-toi, tasse-toi, tu gênes dans le chemin. C'est pas ça qu'il m'a dit, mais c'est comme ça que moi je l'ai interprété à cause des mauvaises mentalités. Donc, Mais dans tout ça, c'est que Jérémie était là, il me dit non, on va servir Dieu ensemble et on s'est accordé pour servir Dieu ensemble. Peu importe sous quelle forme, peu importe comment ça allait être, et c'est pas forcément le ministère à plat temps, c'est pas de prêcher, parce qu'il y a mille et une façons de servir Dieu. Le fait que vous soyez là, ici, en famille, aujourd'hui, un dimanche matin, plutôt que de faire autre chose, vous servez Dieu en famille. Vous êtes ensemble dans votre destinée, vous faites quelque chose d'inhabituel. Vous n'êtes pas comme les autres gens qui disent non, nous le dimanche, on profite pour aller faire l'épicerie, on profite pour ranger la maison parce que comme ça c'est plus facile pour la semaine. Non, vous avez décidé de sortir de cet ordre naturel et de venir ici vous ressourcer dans la présence de Dieu. Et il y a un autre couple dont je voudrais vous parler, c'est Priscille et Aquilas. Vous pouvez aller avec moi dans Romains 16. Vous voyez, Ananias et Saphira, ils ont voulu garder quelque chose. Ils se sont accordés pour retenir quelque chose qui revenait à Dieu. Et en le faisant, ils ont été ensevelis. Leur couple a été enseveli, leur accord a été enseveli. Leur accord n'a pas tenu. Leur accord n'était pas pour la bonne chose. Et ça les a menés à la mort. À la mort vraiment physique, là, pour de vrai. Mais toi et ton mari, ou toi et ta femme, si vous êtes accordés pour quelque chose qui n'est pas pour Dieu, c'est quelque chose qui est contre Dieu. Parce que la Bible dit que si tu ne fais pas partie de celui qui construit, que si tu es celui qui se relâche, tu es frère de celui qui détruit. Et quand ton couple ne s'unit pas pour la gloire de Dieu, ton couple s'unit contre la gloire de Dieu. Et tu dis, ben non, parce qu'on fait rien de mal. Mais ne rien faire de mal, ne pas avancer, c'est déjà reculer. C'est reculer dans ce que Dieu a pour toi. Et regardez Priscille et Aquilas dans au verset 3, Romains 16, 3. Saluez Prisca c'est son petit nom, et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Et vous voyez, ça c'est une autre sorte de couple qui a risqué sa vie, qui a vécu d'une manière dangereuse pour servir Jésus, qui a risqué leur sécurité et leur confort pour servir Dieu. Et ce matin, c'est ça que je voulais vous encourager à être des couples dangereux, des couples prêts à risquer votre sécurité. La sécurité, une sécurité qui a été établie par le monde, par les années, par la vie, c'est des choses qui n'ont pas l'air méchantes, mais c'est des choses qui sont là, qui constamment nous retiennent, parce qu'on veut se protéger, parce que on nous a dit si tu sers à l'église, c'est moins de temps pour tes enfants, c'est moins de temps pour ton mari, moins de temps pour ta femme. Et du coup, tu mets ton couple en danger. Mais quand l'homme et la femme s'unissent pour servir Dieu, leur vie est tournée autour du service de Dieu. On ne cherche pas d'excuses ou de raisons pour ne pas servir Dieu parce que ça va être trop compliqué. On cherche des solutions pour servir Dieu pleinement, pour servir Dieu au maximum. Et je vous dis pas que on doit pas s'occuper de notre famille, qu'on doit être des parents absents parce que Dieu nous a donné des enfants, nous sommes responsables de ces enfants. Je suis contre les excès des gens qui viennent à l'église et qui font des 24 heures de prière 3 fois par semaine avec des enfants et les enfants dorment là 3 fois par semaine à l'église, ils vont à l'école, ils sont fatigués, ils sont en échec scolaire, bref. Non, ça c'est pas ça, ça c'est pas sage. Mais entre cet excès-là et la vie de beaucoup de chrétiens, il y a comme un fossé. Et avant de tomber dans cet excès, il y a vraiment un fossé. De venir une fois dans la semaine à l'église, c'est pas ça qui va mettre ta vie en danger, ta vie de couple en danger. Ben là, faut qu'on passe du temps ensemble. Mais si tu passais du temps dans la présence de Dieu, recevoir ce que Dieu a à te dire, ça, c'est ça qui va sauver ou qui va préserver ton couple. Et vous voyez, je connais un homme qui il s'est approché de Dieu. Il a accepté Jésus dans sa vie. Mais là, sa femme n'a pas accepté Jésus. Et il voulait pas la déranger. Il voulait pas la brusquer parce qu'il dit, je vais la perdre. Sinon, je vais la perdre. Elle comprend pas que ma vie a changé, que maintenant, j'ai envie d'aller à l'église. Et son Son dilemme, c'était pas d'aller plusieurs fois à l'église, c'était juste d'aller le dimanche à l'église. C'était de 10h, on va dire, 10h, midi 30. Il arrivait à 11h et il repartait à midi pour être sûr de ne pas déranger sa femme, que sa femme ne soit pas gênée par sa foi. Et il a mis sa priorité sur son couple. Mais un an plus tard, cet homme-là n'a pas avancé spirituellement, il n'a pas énormément grandi spirituellement parce que son temps était très compté à cause de sa femme. Et un an plus tard, sa femme le quitte. Aujourd'hui, sa femme a demandé le divorce. Le fait d'avoir voulu sauver son couple par ses propres forces, en rangeant Dieu un peu plus loin pour ne pas déranger sa vie de couple, n'a pas sauvé son couple. Il a perdu son couple et il a perdu un an de sa vie chrétienne dans le Seigneur, un an où il aurait pu se bâtir, il aurait pu être fondé, il aurait pu apprendre à prier avec efficacité pour sa femme qui aujourd'hui lui dit « Je m'en vais ». Cet homme-là, aujourd'hui, a tout perdu. C'est certain que le Seigneur est là pour le restaurer et le Seigneur va faire son travail en lui. Mais c'est dommage de voir que cet homme-là était partagé entre deux amours et il a mis la priorité sur un amour humain, un amour que lui-même, par ses propres forces, ne pouvait pas sauver. Et quand la Bible nous dit de chercher tout d'abord le royaume et sa justice, c'est parce que réellement, Dieu est fidèle derrière sa parole et que c'est lui qui s'occupe du reste. C'est pas une promesse en l'air qui est « Oh, ben, je m'occupe des choses du Seigneur et puis j'espère qu'il fera son travail ». Dieu fait toujours sa part. Dieu fait toujours sa part. Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. Donc jamais n'aie peur de servir Dieu en premier, de laisser Dieu en premier parce que c'est là sa place. Et c'est là qu'il va bénir ton couple, qu'il va bénir ta famille et tous les domaines de ta vie. Et quand tu mets ton couple à la première place parce que tu veux sauver ton couple, tu te mets toi à la place de Dieu. Tu te mets dans la position de Dieu. Moi, je vais sauver mon couple. Mais le meilleur endroit pour sauver ton couple ou juste pour rester debout avec ton couple parce qu'aujourd'hui, tu dis, bah moi, mon couple, ça va bien. Donc, c'est ton message, on n'en a pas besoin. Parce que la Bible nous dit, fais attention à toi, de toi-même, de ne pas tomber. Prends garde. Et aujourd'hui, écoute pas ce message-là avec dédain ou mépris parce que toi, ton couple va bien, c'est par la grâce de Dieu que votre couple va bien et c'est par la grâce de Dieu que votre couple continuera de bien aller. Donc, ne te vois jamais comme trop grand, comme inaccessible. Moi, ça ne m'atteindra pas. Tant que tu resteras dans la présence de Dieu, tant que tu resteras près de Dieu, non, ça ne t'atteindra pas parce que Dieu te dira les bonnes choses à faire au bon moment. Dieu te donnera les temps et les saisons. Un moment où ta femme ou ton mari a plus besoin de toi, a besoin que oui, tu passes plus de temps. Peut-être que tu l'amènes en week-end ou en voyage, mais il y a des temps aussi où Dieu va te dire, fais ce pas par la foi, serre-moi, avance, va plus loin. Mais ta femme ou ton mari aura la grâce de pouvoir t'accompagner aussi. Mais si tu te comptes sur tes propres forces, avec des moyens humains, des pensées humaines, ton couple vivra une réussite humaine. Et la réussite humaine est très fluctuante. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Mais en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Il n'y a aucun changement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et quand en Dieu, il n'y a aucun changement, c'est pas au statu quo, c'est aucun changement, mais au plus du plus du plus que tu ne pourrais jamais imaginer. Et voyez, prenez cet exemple comme Priscille et Aquila qui ont tout risqué pour Dieu. Ça a été un couple qui a risqué sa propre vie. Et Paul leur rend hommage, leur dit merci. Et il dit, non seulement moi je leur dis merci, mais toutes les églises des villes païennes les remercient aussi. Et un couple béni est un couple qui bénit. Comme vous voyez, béni pour bénir. Et ça, c'est valable pour votre couple. Un couple qui est béni est un couple qui va bénir et qui va bénir au-delà de ta maison, au-delà de tes enfants. Tu es appelé à être une réelle source de bénédiction. Comme Paul a pu dire, merci Christy, merci Aquilas, merci de la part de toutes les églises. C'est comme merci de la part de toutes les églises de la région d'avoir risqué votre vie, d'avoir osé de vivre une vie pour servir Dieu et pas une vie juste pour vous, pour votre petit couple, pour votre petit confort. Merci à vous. Et c'est ce à quoi vous êtes appelés en couple, à voir plus loin, à voir tous ces gens qui sont là, toutes ces occasions, ces opportunités que Dieu vous donne d'être une source de bénédiction. Mais soyez des couples qui vivez dangereusement, pas de manière folle, mais dangereusement dans le sens où vous risquez tout pour servir Dieu, pour servir Dieu. Rappelez-vous, si vous devez vous souvenir juste de ça, c'est Un couple, c'est pour servir Dieu. Et la Bible nous dit que celui qui essaye de gagner, de garder sa vie, la perd. Mais celui qui perd sa vie, qui abandonne sa vie, qui renonce à sa vie, la sauve ou la retrouve. Et si vous voulez garder, sauver votre couple, semez-le pour Dieu, semez-le dans le royaume de Dieu, semez-le pour l'œuvre de Dieu, semez-vous, abandonnez-vous dans l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu, parce que ça portera un grand fruit. Et si tu essaies juste de préserver ton couple, c'est une petite vision. C'est une petite vision et c'est là que tu te perdras, tu te noieras dans un bocal. Mais si tu vois grand, tu dis non, ma vie c'est plus qu'un couple. Seigneur, on veut te servir ensemble et on croit que c'est toi qui nous tiens solides. On croit que c'est toi qui vas continuer de faire cette œuvre parfaite en nous. Et on sait que tu vas nous parler, que tu vas nous révéler les temps, les saisons et que s'il y a des choses particulières, c'est toi qui nous le diras. Et faites-lui confiance et n'arrêtez jamais de servir Dieu pour sauver votre propre vie, pour sauver votre couple, pour rester dans une zone de confort, parce que vraiment, tournez en rond. Voyez grand, voyez comme Dieu voit, et c'est ça, c'est la vision pour votre couple.
Amen, amen. Merci beaucoup. Wow. Amen. Ok. J'espère que vous avez pris des notes. Si pas sur papier, j'espère que c'est ici. Amen. C'est très puissant que la parole de Dieu nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être renouvelé, de nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Amen. Ça veut dire quoi? Ça nous invite, ça nous incite, ça nous pousse, comme ils ont très bien partagé avec nous ce matin, à sortir de l'Égypte, à sortir de la mentalité du monde d'aujourd'hui. Amen. Et à oser vivre dans les bénédictions de Dieu. Amen. Et je vais tout de suite inviter les préposés pour les dîmes et les offrandes. Amen. Je vous invite ce matin, on a eu un mois au complet sur être généreux, relâché, ce don de générosité. La parole nous dit en Éphésiens que le Seigneur a donné des dons à l'Église. Amen. Il a donné des enseignants, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et ces dons-là ont été donnés à l'Église pour nous aider, vous et moi, à grandir spirituellement et à entrer dans l'appel que Dieu a pour nous. Amen. Et ce matin, on veut honorer les dons que Dieu nous a si gracieusement accordés ce matin. Vous avez été bénis. Amen. Eh bien, on bénit à notre tour. Bénis pour bénir. Donc, on te remercie, Seigneur, pour la parole que tu nous as apportée ce matin. On te remercie pour les dons de Dieu que tu as partagé avec nous ce matin. On prie pour leur ministère, Seigneur, qu'ils soient abondamment bénis, Seigneur, que tu puisses ouvrir encore davantage de portes pour eux, Seigneur, les portes que personne d'autre ne pourra fermer, Seigneur, ces portes où ils pourront toucher encore plus, non seulement de couples, Père éternel, mais de vie, alléluia, des vies chrétiennes, Seigneur, mais aussi des gens qui ont besoin de toi, qui ont besoin de cette vérité, Seigneur, que leur couple soit une source de bénédiction. Amen, dans le nom de Jésus. Amen.